7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Et voilà, dans 10 minutes, ce sera l'analyse de Jean Messia, mais tout de suite, la chronique de Jean-Eudes Gana.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jean-Eudes Gana.
Bonjour Richard, comment allez-vous?
À merveille, et je tiens à rappeler que vous êtes conseiller municipal de Segré en Anjou Bleu. Voilà, c'est une joie pour nous tous.
Ça m'est une joie également, même si je ne voudrais pas en faire trop. Je voulais m'excuser d'abord auprès de vous et auprès des auditeurs pour la semaine dernière où j'étais en déplacement et j'ai oublié de prévenir Radio Courtoisie de mon absence pour la chronique. Donc, je vous ai tous laissé en plan et j'aurais presque pu faire la même chose ce matin, figurez-vous, parce que je suis rentré cette nuit d'un enterrement à Belfort où j'enterrais un ami. Je me suis creusé la tête là ce matin, j'arrivais cette nuit à 2h du matin et je me suis creusé la tête ce matin en me disant sur quel sujet pourrais-je faire la chronique. Je n'étais pas dans mon assiette et je me suis dit que j'allais vous parler du fort de Belfort. Ce n'est pas un sujet d'actualité, mais c'est ce que m'a inspiré ma petite escapade dans l'Est. Et pour moi, c'est quasiment un pays exotique quand on arrive depuis l'Anjou. Donc, je vous emmène dans l'Est de la France, à Belfort, ville discrète mais marquée par son histoire. Une ville qui, depuis des siècles, occupe une position stratégique entre l'Alsace et la Franche-Comté. Et au cœur de cette histoire, il y a donc la silhouette du fort de Belfort. Voilà. Pour comprendre la présence de ce fort, il faut remonter au XVIIe siècle, époque à laquelle la France cherche à protéger ses frontières. Louis XIV, à l'époque, fait appel à Vauban pour fortifier un certain nombre de points stratégiques en France. Et cet ingénieur militaire de Louis XIV va donc transformer Belfort en un véritable bastion, une véritable forteresse. Et quand on dit fort, le fort de Belfort, c'est pas un simple bâtiment, c'est un ensemble de défenses ingénieuses, stratégiques, qui sont extrêmement modernes pour l'époque et qui sont conçues pour résister aux attaques les plus violentes, notamment avec l'artillerie naissante. Voilà. Alors, la position du fort est essentielle. Cet ensemble de réseaux militaires et fortifiés sont donc perchés sur un éperon rocheux. Ça domine la trouée de Belfort, qui est le passage naturel entre les Vosges et le Jura. Et pendant des siècles, cet axe stratégique, la trouée de Belfort, était une zone de passage pour les armées. Donc, contrôler Belfort, c'était contrôler un point clé du territoire avec nos voisins à l'Est qui nous ont causé tout au long de notre histoire un certain nombre de petits désagréments, disons. Mais le fort de Belfort, ce n'est pas seulement cette prouesse d'ingénierie, c'est surtout connu pour avoir été le théâtre d'un épisode marquant de l'histoire française, le siège de 1870 pendant la guerre franco-prussienne. Alors à cette époque, la ville est encerclée par les troupes prussiennes. Le siège va durer 103 jours, 103 jours de résistance héroïque, plus de 3 mois de bombardement, de froid, de faim, d'angoisse pour les habitants et les soldats. Et malgré tout, Belfort a résisté. Et à la tête de cette défense du fort de Belfort, le colonel d'Enfer Rochereau. D'Enfer Rochereau n'est pas seulement le nom d'une station de métro, ça a été une vraie personne, avant d'être le nom d'une station sur la ligne 6, si je ne m'abuse.
Et la 4 aussi.
La 4 également.
Voilà.
Merci Richard Chignoric, vous aviez travaillé à la RATP.
Porte d'Orléans, porte de Clignancourt, comme on disait avant, mais maintenant ça a changé. Mais merci beaucoup. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais parce que vous nous parlez de Belfort et on pourrait croire que c'est purement historique. En fait, ça l'est, mais parce qu'il y a eu des développements récents et je me permets de griller un peu, mais je vous reprendrai le cours de votre démonstration. Belfort a été une mairie écologiste et est redevenue une mairie LR. Et le fait d'être, est devenu une mairie LR, et le fait d'être devenu une mairie LR a un impact énorme sur les grands-ducs et les chauves-souris. Et donc, c'est en ça que la forteresse de Belfort est un vrai sujet pour votre chronique. Mais je vous laisse reprendre là où vous en êtes avec le lion de Belfort et d'Enfer Rochereau.
Ah, mais je ne savais pas, je n'avais pas suivi l'actualité municipale à Belfort.
Ah, j'étais persuadé, parce que, il y a cette forteresse de Belfort, et elle était illuminée la nuit.
D'accord. Et le maire écolo a arrêté pour
le maire écolo a arrêté. Et le maire LR a décidé de remettre en place l'éclairage public.
Ok, aux grandes dames des chauves-souris,
Et
alors.
ben, en fait, bizarrement, même pendant que le fort était éclairé, les chauves-souris avaient pris l'habitude de nidifier tranquillement, et pas que les chauves-souris, tout un tas d'oiseaux. Il y a une faune qui est dans le fort de Belfort et qui s'était évidemment habituée à l'éclairage public. Et l'éclairage public a été supprimé par la mère écologiste qui expliquait qu'il était nécessaire. Enfin, j'espère que je ne confonds pas Besançon et Belfort, mais je ne crois pas. Voilà, le maire a décidé de rétablir l'éclairage en permanence. Bah, mais si ça se trouve, je suis en train de confondre Belfort et Besançon. Mais je vous laisse finir.
Bon, c'est très intéressant, en tout cas, de voir la folie écologiste, enfin de la fausse écologie. Bref, dans des conditions extrêmement difficiles, avec 200 personnes civiles et militaires confondues qui perdent la vie durant le siège, la ville résiste et ne capitule pas. Voilà, malgré l'intensité des assauts prussiens, elle se rend uniquement sur ordre du gouvernement français, mais après l'armistice. Donc Belfort n'a jamais été vaincu militairement et ce fait est déterminant parce que contrairement à l'Alsace et à une partie de la Lorraine, Belfort va rester française après le traité de Francfort qui entérine donc l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine au profit de nos cousins les Germains. Et c'est pour ça que Belfort d'ailleurs s'appelle le territoire de Belfort parce que la ville a eu un statut provisoire. Elle faisait partie du département du Haut-Rhin. Avec l'annexion de l'Alsace-Lorraine, elle se retrouve amputée du département auquel elle se rattachait. Et c'est comme ça que jusqu'en 1922, elle a eu un statut provisoire de territoire de Belfort, et le nom est resté, raison pour laquelle, même maintenant que c'est un département, on parle du territoire de Belfort. Voilà. Alors, on parlait des animaux sur le fort de Belfort. Il y a bien sûr le célèbre lion, sculpté par Auguste Bartholdi, qui a également été l'auteur de la Statue de la Liberté. Voilà, un lion massif qui rend hommage à la résistance héroïque de la ville. En vous parlant de guerre, j'ai eu une petite pensée ce matin, quand même, je n'ai pas voulu vous faire que d'histoire, on va un peu parler de politique. C'est qu'il y a à peu près 80 ans, je crois, que nous n'avons pas eu de guerre sur notre sol et que on est entouré de monuments qui sont imprégnés d'histoire, de guerre, de bataille, mais que nous avons vu des générations se succéder qui n'ont pas fait la guerre. Et encore, en plus, en 45, le pays a été largement libéré ou le théâtre de bataille entre des armées étrangères, hein. Voilà, c'est cette absence de guerre qui, selon moi, est l'une des raisons de la perte de sens civique en France et du défaitisme de nos concitoyens. Voilà. Même sincèrement patriotes, ils n'ont pas vécu les sacrifices de la guerre qui ont poussé, par exemple, durant l'entre-deux-guerres, un certain nombre de nos aïeux à s'engager politiquement de manière massive. Voilà. Et d'ailleurs, même après la Seconde Guerre mondiale, même si la Seconde Guerre mondiale a été voilà, plutôt le théâtre de batailles d'armées étrangères, hein, il faut le rappeler quand même. Eh bien, les gens se sentaient investis pour leur pays et investis d'une mission. Cette perte de sens civique et cette perte de patriotisme est donc en lien direct avec l'absence de guerre. Alors, je ne souhaite pas qu'il y ait de guerre à nouveau en France, mais disons que je pense que pour qu'il y ait un réveil, il faudra bien un électrochoc. Alors, peut-être que cet électrochoc, ça a été l'horreur des attentats islamistes, hein, qui se succèdent. Et on dit souvent que les Français ne se réveillent pas malgré les attentats, etc. Je crois que c'est inexact. Si j'en crois les scores électoraux, la hausse des baptêmes chez les jeunes notamment, la quête d'identité dans la jeunesse, etc. Je crois que c'est le début de l'électrochoc. Mais voilà, 80 ans qu'on n'a pas eu de conflit sur notre territoire, l'histoire est en train de convulser, on le voit partout à l'international. Alors souhaitons que, même sans guerre sur notre sol, voilà, souhaitons qu'au moins les bâtiments, le fort de Belfort, un certain nombre de traces, les monuments aux morts, etc., nous rappellent que nous avons une histoire glorieuse, imprégné de sacrifices et que donc il faudrait enclencher le sursaut.
Alors, effectivement, on ne va souhaiter aucune guerre. Et je rappelle juste aussi que il y a quand même eu des centaines de milliers de combattants français en 44 qui ont participé à la libération du territoire, non seulement les armées d'Afrique qui venaient avec tous les Français qui s'étaient réfugiés en Afrique du Nord et qui ont participé au débarquement en Italie, au débarquement de Provence, mais aussi tous les maquis, donc les Français de l'intérieur qui ont participé à cette reconquête. Vous avez raison, il y a ces traces et d'ailleurs j'avais évidemment confondu Besançon et Belfort.
Voilà, mais il fallait
parce,
pas dire.
Mais si, voilà, de transparence absolue. Voilà, on n'est pas sur le service public. Voilà, quand je me trompe, je le dis. Voilà, mais cela dit, à Besançon aussi, c'est une forteresse de Vauban. Et voilà, à Besançon aussi, il y a un éclairage public. Et voilà, donc c'est l'éclairage public a été rallumé et donc évidemment les défenseurs de la vie du grand-duc sont, je parle de l'oiseau, sont furieux alors que le grand-duc a l'air pour le moment de le vivre assez bien. Cet électrochoc, vous avez raison, c'est véritablement la manière dont peu à peu les jeunes Français ont l'air de se réapproprier leur histoire et peut-être qu'il y a une génération endormie, mais en même temps c'est aussi un peuple qui est sous le radar, c'est-à-dire on ne le voit pas, mais il y a une espèce de résistance passive à la manière dont l'État entend nous régenter. Donc tous ces gens qui ne votent plus, tous ces gens qui décident d'être gilets jaunes quand ils n'étaient pas politiques, tous ces gens qui en fait refusent les partis politiques, c'est d'une certaine manière un réveil à bas bruit, mais un front de plus en plus consistant par rapport au pouvoir central.
Oui, oui, c'est évident et c'est pour ça que je ne désespère pas. Voilà, je pense simplement que quand on a défendu son pays les armes à la main, on est plus enclin à s'engager politiquement parce qu'on estime que on a un devoir, une légitimité. Là où j'ai l'impression qu'il y a une espèce de résistance passive aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément suivie d'actes. Bon, on a eu la révolte des Gilets jaunes, c'est vrai, mais qui n'est pas suivie d'effets dans l'engagement dans la vie publique, parce que je crois que les gens à la fois parfois n'y croient plus beaucoup ou alors ne se sentent pas légitimes. Là où les anciens combattants, à raison, se sentaient très largement légitimes à donner leur avis sur et à s'engager politiquement.
Et d'ailleurs, ces anciens combattants, on peut voir leur nom sur les monuments aux morts. C'est toujours un spectacle saisissant avec cette diversité des monuments et notamment certains d'entre eux qui ne présentent.
Et que vous alliez dire la diversité des origines sur les noms des monuments aux morts. J'allais dire, bon, la diversité des origines, pas beaucoup.
Alors, à Verdun, voilà, quand il y a des milliers de morts enterrés au même endroit, on voit bien qu'il y a une diversité, mais effectivement, lorsqu'on est dans un village de Gascogne, d'Alsace ou de Provence ou du Berry, ça a l'air assez comment dire, homogène. Et je me souviens d'un monument aux morts qui m'avait particulièrement ému, où c'était un père et une mère au milieu d'un champ, le père essayant de consoler la mère, et on sentait que, en fait, sur les moissons qu'il avait levées, il y avait le corps du fils qui était enterré, qui n'était pas là, et malgré tout, la vie continue. Je crois que c'est ce genre aussi de pensée que nous devons avoir en regardant tout le sacrifice qui a été fait, non pas se désoler que personne ne soit capable de se lever, mais savoir que quelqu'un s'est levé et que ça nous a permis de continuer à exister.
Tout à fait, voilà. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, pour la patrie charnelle. Oh, j'ai plus exactement.
Mais vraiment, le devoir pour la semaine prochaine, nous citer du Peggy. Merci beaucoup, Jean-Luc Gana.
À bientôt, au revoir, Richard.
Ligne droite.
Bonjour, Ludovine de la Rochère.
Bonjour, Richard.
Alors, vous êtes présidente du syndicat de la famille et vous venez nous parler des dernières décisions du Comité consultatif national d'éthique.
Alors, à vrai dire, j'aimerais que ce soit une décision du CCNE, mais en tout cas, auditionné en mars, donc il y a quelques jours, par le Comité consultatif national d'éthique. Alors, en employant le mot éthique, j'ai une petite hésitation pour ce qui concerne le CCNE, mais passons. Et j'ai pressé son président et ses membres d'user enfin de leur influence dans le bon sens, en l'occurrence pour faire interdire les bloqueurs de puberté et les traitements de transition sexuelle jusqu'à 25 ans. Et justement, une étude majeure conduite en Finlande a été publiée cette semaine. Elle a évidemment confirmé les arguments que j'avais exposés au CCNE. Je dis évidemment, parce que quand on sait en quoi consistent ces traitements, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient bénéfiques.
Alors, qu'en est-il justement de ces bloqueurs de puberté ?
Alors donc, ces bloqueurs de puberté sont utilisés pour des préadolescents, par définition, vers l'âge de 10-12 ans en moyenne. En fait, ce sont donc des enfants qui sont mal dans leur peau et qui pensent être nés dans le mauvais corps. Je mets des guillemets naturellement. Une idée qui n'a rien de scientifique, mais que les transactivistes, les militants trans, propagent auprès des jeunes, et y compris à l'école, et y compris via le fameux programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, le fameux EVARS. Et alors des médecins, enfin si on peut les appeler médecins, leur prescrivent dans ce cas des bloqueurs, l'objectif étant que l'intéressé ait le temps de réfléchir à son identité et de confirmer ou non s'il veut transitionner ou rester ce qu'il est et appelé à devenir. Alors les molécules utilisées, des analogues de la gonadotrophine, je ne rentrerai pas dans les détails, conduisent l'organisme à s'arrêter de produire des hormones sexuelles et donc arrêtent la puberté. Or ces molécules ont des autorisations de mise sur le marché qui suivent par conséquent des études cliniques, mais pour d'autres indications comme certains cancers, les fibromes, etc. Et, très important, elles ne peuvent être prescrites que pour une durée de 2 ans, grand maximum. Mais des médecins les font prendre tout de même à des jeunes de la préadolescence jusqu'à leur transition, soit bien au-delà de cette durée de 2 années. Or, on sait que leur densité osseuse future sera affectée et sans doute aussi leur développement neurologique.
Alors, quand une personne arrête de prendre les bloqueurs de puberté, est-ce que la puberté reprend là où elle en était ?
Et non, pas du tout. Le développement de l'être humain n'est pas un DVD ou une vidéo qu'on arrête, qu'on relance à volonté. Au-delà de 2 années, la puberté ne se fera plus complètement. Les organes sexuels ne se développent plus normalement et la fonction sexuelle est atteinte. Ce qui s'ajoute aux autres conséquences sur la santé que j'avais déjà évoquées.
Mais alors, en quoi consistent les traitements de transition ?
Alors, la suite, quand malheureusement un jeune est rentré dans cet engrenage, il faut savoir que quand il y est rentré, généralement, il va poursuivre. Et cette suite, elle est de 2 ordres, hormonal et chirurgical. Alors, pour ce qui est des hormones, il s'agit logiquement d'hormones masculines ou féminines de synthèse qu'on va utiliser pour déféminiser puis viriliser, ou à l'inverse, déviriliser puis féminiser. Alors, je dois dire qu'avec la propagande actuelle, l'impact se porte davantage sur des jeunes filles. Ce sont plutôt des filles, un peu comme l'anorexie, qui sont concernées par ce type de processus d'engrenage. Et alors là encore, ces hormones ont des autorisations de mise sur le marché pour certains cancers, pour la préménopause, etc. Et leur prescription hors dehors de ces indications, mais donc aussi les jeunes en danger. Il n'y a pas eu d'études cliniques qui ont précédé ce détournement des objectifs, des indications. Et par exemple, le risque d'accident cardiovasculaire serait multiplié par 7 avec ces traitements, qui sont donc potentiellement mortels, ce type d'accident. Et en outre, certains des effets de ces molécules sont irréversibles, ce que généralement les jeunes et leurs parents ne savent pas. Et par exemple, sur la voix, sur la pilosité et sur la fonction sexuelle. Une petite jeune fille qui prend de la testostérone, même si elle s'arrête quelque temps plus tard, gardera de toute façon toute sa vie une voix d'homme. Et pour en avoir rencontré, croyez-moi, une femme qui a une voix d'homme, ça fait vraiment un drôle d'effet. Et toute sa vie, elle portera ce stigmate.
Alors vous nous avez parlé de la transition hormonale, mais il y a aussi une transition chirurgicale.
Alors là, il s'agit d'abord, premièrement, de l'ablation des organes sexuels. On parle de lourds, très lourds, organes sexuels primaires et secondaires, donc pénis ou testicules, et testicules, ou alors seins, éventuellement ovaires et utérus. Deuxièmement, il s'agit de la reconstruction de néo-organes, par exemple un néopénis, qui va être constitué à partir du clitoris gonflé par la prise de testostérone. Pardon. C'est pénible à entendre.
Surtout, ça paraît frankensteinien.
Absolument. Mmh. Mais il faut bien le dire, et il faut dire tout haut ce que les transactivistes taisent, évidemment. Et puis troisièmement, il y a ensuite des interventions esthétiques, mais qui sont lourdes également, de féminisation ou de masculinisation du visage et du corps. Par exemple, chez un garçon, on va raboter la pomme d'Adam, ou chez une fille, on va accentuer les mâchoires, augmenter le menton, etc., etc. Ces interventions sont donc irréversibles. Et ces jeunes que l'on ose mutiler par idéologie, et pour l'argent bien sûr, ne redeviendront plus jamais ce qu'ils étaient. C'est absolument criminel d'embarquer des jeunes dans cet engrenage.
Alors, si on leur fait subir tout ça, si on leur fait prendre des risques aussi incroyables, est-ce qu'au moins, ensuite, on sait qu'ils se sentiront mieux, que leurs souffrances psychiques vont s'atténuer, que leur mal-être les avait amenés à cette transition va s'atténuer ?
Hélas, non. Alors, cette souffrance liée à l'identité sexuelle survient parfois pendant l'adolescence. J'allais dire, ça n'est pas nouveau. Et jusqu'à présent, et quand on a un certain bon sens, On accompagne le jeune pour comprendre ce qu'il se passe, pour soulager sa souffrance. Et dans ce cas, l'idée de transitionner passe d'elle-même dans plus de 90% des cas. Je parle bien d'aujourd'hui, hein, en dépit de la propagande actuelle. Mais ce mal-être des adolescents est instrumentalisé par des idéologues qui estiment, vous le savez, les éditeurs de Radio Courtoisie le savent, que chacun devrait choisir son identité de genre quitte à transitionner, que nous ne serions pas homme ou femme, ce serait des identités assignées à la naissance, l'humain ne serait d'ailleurs pas forcément homme ou femme, etc., etc. Et donc ils utilisent la souffrance de jeunes en mal-être en les poussant vers cela, en prétendant que cela les sauverait d'un risque de tentative de suicide. C'est ce qu'ils prétendent.
Effectivement, c'est terrible. Vous parliez d'une étude qui venait de sortir. Alors, quelle est cette étude? Comment se la procurer?
Vous la trouverez assez facilement, par exemple, sur le site du site internet du syndicat de la famille. En l'occurrence, cette étude est très importante parce qu'elle a été menée sur une cohorte nombreuse et sur une longue durée. Donc, des scientifiques ont recueilli les données de tous les adolescents concernés par une dysphorie de genre, ce qu'on appelle une dysphorie de genre, une hésitation sur leur identité sexuelle, donc en Finlande et sur une durée de 25 ans. On parle là de 2083 adolescents. Or, leur étude montre que non seulement les problèmes psychiatriques ne sont pas améliorés, allégés par la transition, mais au contraire, ils sont très nettement accentués. Et cette étude est très importante parce qu'elle montre sans conteste possible que pousser vers la transition est une catastrophe et criminelle, je le disais. Le CCNE doit donc, en effet, et au plus vite, intervenir auprès de nos gouvernants pour interdire les bloqueurs de puberté et les traitements de transition. Et ce, jusqu'à 25 ans, impérativement.
Voilà, merci beaucoup, Ludovine de la Rochère.
Merci, Richard.
Ligne droite, l'analyse.
Et cette analyse, c'est avec Jean Messia. Bonjour, Jean.
Bonjour Richard, ça me fait plaisir de vous revoir et bonjour aux auditeurs.
Moi aussi. Voilà. Jean, on a plein de sujets sur la table, notamment évidemment l'Iran, mais aussi le voile islamique en France. Et peut-être même on reviendra tout à la fin sur l'Iran pour examiner les aspects économiques de cette guerre. Mais commençons par parler de la guerre irano-israélo-américaine. Et peut-être plus spécifiquement de la manière dont Israël a l'air de ne pas vouloir du cessez-le-feu et a l'air de considérer que, puisque l'action a été déclenchée contre l'Iran, il est légitime qu'elle continue à faire cavalier seul contre le Liban.
Tout d'abord, Israël est un État souverain. Il a beau être l'allié des États-Unis, ce n'est pas le 52e ou 51e État américain. Et à ce titre, sa politique étrangère et sa politique de défense est aussi souveraine que celle de la France ou même des États-Unis eux-mêmes. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, Israël a des impératifs de sécurité que d'ici, tout le monde perçoit et tout le monde peut comprendre. Bon, après, si vous voulez, c'est vrai qu'une guerre n'est jamais propre. Donc, moi, je suis très attentif, par exemple, au sort des chrétiens d'Orient et notamment des chrétiens du Liban. C'est un pays que je connais très bien parce que j'ai servi la France à l'ambassade de France au Liban à deux reprises au début des années 2000, puis ensuite en 2010. Je peux vous dire que les chrétiens libanais, ils sont hyper favorables à ce que le Hezbollah soit désarmé. Et d'ailleurs, peut-être qu'on le sait moins, ça, mais y compris les chrétiens sunnites libanais, les Libanais sunnites. Les Libanais sunnites, musulmans sunnites, veulent également un désarmement et une disparition du Hezbollah. Donc si vous ajoutez les Libanais chrétiens aux musulmans sunnites chrétiens, vous obtenez une majorité de Libanais qui est favorable à ce que cet État dans l'État qu'est le Hezbollah, qui est une espèce de tentacule iranienne, disparaissent de leur pays, puisqu'en fait, ce tentacule prend leur pays en otage. Ils sont de ce fait, parce qu'évidemment, ils ne vont pas le dire eu égard au danger qu'ils encourent, mais une majorité de Libanais, malgré un certain nombre de destructions, restent favorables à l'opération israélienne, parce que si Israël ne fait pas disparaître le Hezbollah, le Hezbollah ne disparaîtra jamais du Liban. le Liban, l'armée libanaise, l'État libanais qui est un État failli. Je rappelle quand même que l'État libanais n'est pas capable de fournir plus de 40% d'électricité du pays et n'est pas capable de fournir plus de 20% de l'eau du pays. Donc sur les services publics, si vous voulez, de base, l'État libanais est totalement défaillant. J'ajoute que l'armée libanaise, près de 80% de la troupe est chiite et donc plus ou moins soumise au Hezbollah. Donc vous voyez, cette espèce de verrue qu'est le Hezbollah au Liban, les Libanais eux-mêmes, l'État libanais lui-même ne peut pas l'exfolier. Et donc beaucoup de Libanais vivent cette opération de destruction massive du Hezbollah et d'annihilation du Hezbollah comme une divine surprise.
Alors évidemment, pardonnez-moi Jean, mais j'ai l'impression d'entendre Donald Trump nous expliquer que les Iraniens applaudissent des deux mains et des deux pieds au fait d'être bombardés. On en parlait avec Siavosh Ghazi, peut-être que les Iraniens, lors des premiers jours de l'offensive, applaudissaient ce qui était annoncé comme un Armageddon qui allait amener en deux semaines, au changement de régime. Au bout du 40e jour, il semble que l'opinion iranienne ait changé, et là quand on parle de destruction massive, vous avez raison, c'est Hezbollah est peut-être massivement détruit, mais ne serait-ce qu'hier, 253 morts et plus de 1000 blessés, dont il est très difficile de juger, ou plutôt dont il est très facile de juger qu'il n'y a pas une majorité de combattants du Hezbollah parmi ces morts. Donc Israël est en train d'expliquer qu'ils vont annexer le Liban Sud. Donc est-ce que véritablement les Libanais sont ravis de la chose ?
Je ne sais pas ce qu'il en adviendra, et évidemment pas souhaitable qu'Israël annexe quelque territoire que ce soit. Cela dit, si vous voulez, nous qui sommes Français, nous savons ce que c'est la guerre. Alors peut-être qu'on est un peu trop jeune pour l'avoir connue, mais pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de France du XXe siècle, vous savez très bien que en 1944, lorsque les armées alliées bombardaient, effectivement, il y avait énormément de frappes collatérales parce qu'il s'agissait de déloger le nazisme. Et d'ailleurs, la propagande de Vichy en faisait ses choux gras, en disant, voyez, ceux qui prétendent vous libérer sont des criminels, et ils arrivaient à retourner comme ça l'opinion. Je suis pas sûr que les grands bombardements, notamment de Normandie, etc., de 1944, étaient extrêmement populaires parmi la population française et encore moins parmi la population normande.
Non, ils étaient évidemment détestés. Et ce qui est amusant, c'est que Arthur Bombing Harris, comme on le surnommait, donc à l'origine de ces bombardements stratégiques, était contesté même par les Anglais qui considéraient que ces bombardements stratégiques étaient en fait peu utiles d'un point de vue véritablement tactique. Et Arthur Harris les défendait en expliquant qu'il fallait terroriser la population, ce qui peut peut-être se justifier, quoique quand il s'agit de terroriser la population allemande, mais qui évidemment était difficilement justifiable quand il s'agit de terroriser la population normande qui n'en avait pas besoin.
C'est tout à fait exact, mais le problème, si vous voulez, c'est que le problème d'un régime totalitaire, je crois que de ce point de vue, l'Iran des Mollahs est assez semblable dans son organisation totalitaire à l'Allemagne nazie, c'est que c'est une organisation qui est tentaculaire, c'est une organisation qui investit la moindre école, le moindre hôpital, le moindre immeuble, ils sont partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont si difficiles à détruire. Alors on compare souvent avec les Kadhafi, les Bachar el-Assad, les Saddam Hussein, etc. À mon avis, la comparaison n'est pas bonne. Parce que dans ces régimes-là, tout tenait sur une seule tête. Tout tenait sur un seul homme. Donc une fois que l'homme en question était abattu, c'est tout le régime dont il était l'incarnation qui s'effondrait. Or, l'Iran, qui est une vieille civilisation, on l'a répété ces derniers temps, et aussi une civilisation institutionnalisée, organisée, étatisée, le totalitarisme islamique est venu infester, en fait, cette organisation extrêmement moderne qui était l'État iranien. Et donc, on ne peut pas, d'ailleurs, vous voyez, on a tué Khamenei, le régime ne s'est pas effondré, précisément parce que, encore une fois, c'est un régime pluricéphale, avec plusieurs pouvoirs, plusieurs têtes, plusieurs milices, plusieurs polices, ce qui fait que, un, la population iranienne est tellement corsetée comme l'était en son temps la population allemande par les diverses organisations nazies et donc incapable, si vous voulez, d'effectuer une révolution. On se rappelle que, par exemple, lorsqu'on a eu une attaque contre la Libye dès les premiers jours, à Benghazi, etc., la population était sortie dans la rue, ils ont été allés chercher le dictateur, parce qu'encore une fois, ça ne reposait que sur une seule personne. Là, la société est tellement emmailloté, corseté par les mollahs qu'effectivement, ça rend à la fois les opérations pour détruire le régime beaucoup plus difficiles et aussi la réaction par le bas de la population pour accélérer cette chute plus difficile encore. Donc la tenaille qui marche habituellement entre une attaque extérieure et l'intervention de la population sur le sol est comme grippée en son milieu par ces deux difficultés. Donc après, si vous voulez une guerre, encore une fois, il y a des dommages collatéraux. Je pense que si demain la France, je sais pas, est attaquée par un grand pays du Sud et que, hélas, nous devions bombarder, je pense qu'il y aurait également des dommages collatéraux. Mais si vous voulez, si on mène une guerre uniquement en se disant qu'au moindre dommage collatéral, eh ben, il faut l'arrêter ou il faut réfléchir à changer de stratégie, vous pensez bien qu'aucune guerre n'aura jamais été gagnée. C'est malheureux, c'est bien sûr, c'est sur le plan humain, c'est toujours extrêmement difficile de voir des enfants, des femmes, des civils qui n'ont rien demandé à personne se prendre des bombes sur la gueule. Mais encore une fois, répétons-le, qui a décidé de cela ? Je veux dire, si les États autour d'Israël avaient fait comme l'Égypte en 79, signé un traité de paix qu'on avait au moins au bout de quelques années arrêter les hostilités, commencer à imaginer des accords de coopération, des accords commerciaux, etc., on n'en serait pas là. Voilà. Donc, et l'Iran, c'est pareil. L'Iran est un régime qui prend en otage sa population. Il faut rappeler quand même que l'Iran est responsable de l'attentat du Drakkar. Je ne sais pas comment on s'en est jamais vengé de cet attentat qui a peut-être coûté la vie quand même à 83 de nos légionnaires en 1983. On s'en est jamais vengé. Les otages français du Liban enfermés dans le sud Liban à la fin des années 80, dont plusieurs ne sont jamais revenus, on s'en est jamais vengé. Donc, excusez-moi, mais les gens qui me disent, attendez, l'Iran, c'est presque notre ami, il faut presque veiller à ses intérêts. Non, merci. Genre, l'Iran est un régime abominable, est un régime anti-français, anti-occidental, qui massacre son propre peuple. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord, par exemple, avec l'intervention occidentale en Irak, parce que l'Irak, pour le coup, ce n'est pas un État qui nous a nui. Ce n'est pas un État qui a tué nos concitoyens, ce n'est pas un État qui a tué nos militaires. Donc, la France n'avait rien à y faire. Là, la France a quand même quelques sujets historiques à régler avec l'Iran, même si on s'en tient, si vous voulez, à une approche extrêmement égoïste en disant les Iraniens, on s'en fout, ils peuvent crever, l'État peut les massacrer, les femmes peuvent être défigurées parce qu'elles enlèvent le voile, etc. et qu'on s'en tient à une attitude un peu nationalement égoïste. Je suis désolé, mais nous avons des sujets avec l'Iran en tant que Français. Donc bon, je pleure pas sur les mollahs, si vous voulez. Après, une guerre, ça a un coût. C'est vrai, une guerre, ça a un coût. Le coût de la guerre n'a jamais été un argument pour cesser d'en poursuivre les objectifs. Ça a été le cas de toutes les guerres qui ont été menées depuis que l'humanité existe.
Alors, Jean, puisqu'on parle de guerre, il y a cette espèce de guerre à bas bruit que l'islam mène contre le reste du monde, puisque le but de l'islam est d'établir l'Oumma, la communauté universelle des croyants. Et évidemment, en France, cette offensive est aussi une offensive dans l'espace public, avec la multiplication des signes d'appartenance religieuse ou des signes d'ailleurs de manifestation de foi. On l'a vu au moment de la fin du Ramadan 2026. Ce sont des dizaines de prières de rue qui ont eu lieu avec des milliers de musulmans qui ont investi les rues et les stades. Et évidemment, ce sont leurs femmes qui portent différents vêtements islamiques, donc dont le signe religieux est manifeste. Que pensez-vous de la dernière proposition faite par Anne Sicard et Julien Odoul ?
D'abord, il y a deux choses. Il faut que les auditeurs comprennent qu'il n'y a plus aujourd'hui, comme il a pu y avoir il y a plusieurs décennies, d'animosité ou d'inimitié ou d'hostilité entre l'islam chiite et l'islam sunnite. Ça nous remène à ce qu'on disait il y a un instant. Les frères musulmans qui sont derrière les manifestations que vous évoquez sont aujourd'hui les alliés objectifs des mollahs. D'ailleurs, le Hamas, qui est le bras armé des frères musulmans, est massivement aidé par l'Iran, qui est chiite, qui l'eût cru. Bon, donc si vous voulez, cette alliance objective fait que l'Iran finance toutes les causes des frères musulmans par détestation à la fois de l'Occident et par la détestation d'Israël. Donc Voilà pourquoi l'Iran des Mollahs, en tout cas, n'est pas notre ami. Ça, c'est le premier point, et ça fait la transition avec ce que je disais il y a un instant. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que c'est évidemment une proposition, comment dirais-je, très utile et très appréciable. D'ailleurs, à Reconquête, nous avions dans le programme de 2022 l'interdiction du voile islamique, non seulement partout, dans tous les édifices français qui portent le drapeau tricolore, mais nous voulons également l'interdire dans l'intégralité de l'espace public. Je note quand même la contradiction du Rassemblement national, qui ne cesse d'affirmer par la voix de Marine Le Pen et un peu moins, mais quand même par celle de Jordan Bardella, que l'islam est compatible avec la République. Donc si l'islam est compatible avec la République, alors le voile islamique est compatible avec la République, c'est quoi le problème en fait pour eux ? Parce qu'ils ne peuvent pas dire l'islam est compatible avec la République pour s'attirer, ou en tout cas calmer une partie d'électorat musulman, et venir sur l'autre pied interdire le voile islamique pour donner des gages à l'électorat national français. À un moment, il faut faire des choix. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai quitté le Rassemblement national, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de la vérité d'abord et le courage d'aller au bout de leurs convictions. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, le problème aussi, c'est qu'on ne peut pas, si vous voulez, imaginer des solutions ponctuelles. Parce que une fois, là ça marche, parce qu'effectivement les conseils municipaux sont circonscrits et on peut très bien interdire le voile, mais si on veut être plus ambitieux et interdire le voile islamique dans l'espace public, ce que quand même la plupart des Français d'identité française souhaitent, on ne peut pas se contenter simplement de l'annoncer. Parce que imaginons, vous avez entre 1,5 million en France et 3 millions de femmes qui portent le voile. Si demain vous décidez d'interdire le voile islamique dans l'espace public, qui c'est qui va faire appliquer cette loi ? Vous croyez qu'on a comme ça des effectifs de milliers de policiers oisifs qui attendent d'aller courir après les réfractaires et les récalcitrantes qui porteraient le voile malgré la loi ? Bien sûr que non. Donc c'est pour ça que Reconquête est le seul parti en France qui propose une politique de rémigration juste, raisonnable et légale. Parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, lutter contre les symptômes de l'islamisation sans lutter contre ses racines, contre ses causes. Si vous avez énormément d'immigrés musulmans qui sont au chômage de longue durée, qui soit ne foutent rien, soit foutent le bordel, soit les deux, je suis désolé, l'automaticité du renouvellement d'une carte de séjour lorsqu'ils sont des immigrés légaux, elle doit cesser. Il y a des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers de personnes qui sont concernées soit par le chômage de longue durée, soit par une délinquance ou une criminalité sanctionnée par un tribunal. Donc ces gens-là n'ont rien à faire chez nous, il faut les renvoyer chez eux. Ensuite, l'ensemble des clandestins, ensuite les binationaux qui se rendent coupables de crimes graves doivent être déchus de leur nationalité française et renvoyés chez eux. Tant qu'on n'aura pas, si vous voulez, réduit le nombre, parce qu'aujourd'hui on parle quand même de 10 à 15 millions de musulmans en France, qui ne sont évidemment pas tous des musulmans radicaux, mais cette communauté est traversée par des courants radicaux extrêmement puissants qui visent à unifier in fine cette communauté pour en faire le bélier qui va venir détruire les derniers vestiges, les dernières résistances de la France, de ses racines chrétiennes et de son identité pour en faire un pays musulman. C'est ça qui nous guette. Et ce n'est pas un fantasme d'extrême droite. Qui parlait du voile islamique, d'interdire le voile islamique dans les conseils municipaux dans les années 80 ou dans les années 90 ? Personne. Pourquoi ces sujets arrivent aujourd'hui sur la table ? Qui parlait de prières de rue qui envahissaient des stades entiers avec des appels à la prière et le Coran diffusé par haut-parleur il y a encore 15 ou 20 ans ? Personne. Pourquoi ces sujets arrivent progressivement dans le champ médiatique ? C'est parce qu'il y a une islamisation réelle par le bas. Il y a des effets extrêmement spectaculaires et terrifiants sur notre pays. Alors, ce n'est pas en prenant une petite loi par-ci, une loi sur les séparatismes par-là, une loi interdisant les voiles dans les conseils municipaux. Tout ça est évidemment louable, mais c'est bien en deçà de ce qu'il faudrait faire pour prendre le taureau par les cornes et pour éviter que demain, on en soit à discuter si un président, un candidat à la présidence qui serait en turban et en barbe puisse se présenter. Parce que vous voyez bien qu'on a quand même une dynamique, si vous voulez, qui est à l'œuvre. Et tout ce qui a été fait jusqu'à présent ne l'a pas stoppé. C'est la loi du nombre. Donc la loi du nombre, c'est commencer par arrêter immédiatement toute immigration. C'est pour ça que le malheureux Édouard Philippe, il n'a strictement rien compris aux enjeux vitaux et capitaux et cardinaux que guette la France aujourd'hui. Lorsqu'il dit il faut plus d'immigration, on est chez les dingues. Et il se prétend être homme de droite en plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc il faut déjà arrêter toute immigration supplémentaire et commencer par inverser les flux. Tout parti qui se prétend national ou patriote et qui déclare que l'islam est compatible avec la République ou qui n'a pas dans son programme un plan de rémigration sérieux n'est pas un parti national et patriote. C'est un parti, comme on l'appelait naguère, un parti jaune, comme on disait les syndicats. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette expression.
La CGT l'avait popularisé.
Exactement. Donc c'est un parti jaune, c'est-à-dire qu'effectivement, il a la coquille du nationalisme, la coquille du patriotisme, de la défense de l'intérêt, mais en réalité, de l'intérieur, il est vérolé par les grands dogmes du système qu'il défend en sous-main, tout en se drapant des oripeaux de la défense de l'intérêt de la France.
Eh bien, merci beaucoup Jean Messia et à la semaine prochaine pour une analyse toujours percutante.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Bonjour François-Xavier Jiquel.
Bonjour Richard de Sèze.
On a assisté hier à la plus grande attaque revendiquée par Israël contre le Liban, avec d'ailleurs des résultats tout à fait tangibles. Plus de 250 morts, plus de 1200 blessés. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un cessez-le-feu ? Est-ce que cette guerre touche vraiment à sa fin ?
En effet, il faut replacer cette attaque, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, dans un cadre plus global. Parce que non, franchement, on parle pas de trêve. Sur le terrain, ce sont des grands mots, mais rien ne se produit. Surtout, cette guerre donne une impression très forte, celle d'un conflit qui a été lancé sans objectif clair. On a changé de discours en permanence, nucléaire, changement de régime, démonstration de force, et maintenant, négociation qui serait menée par un camp, par deux camps, on ne sait pas très bien. Trump en parle, mais on ne sait pas qui lui répond. En réalité, cette guerre semble avoir été menée sans cap, ou avec un seul objectif implicite, suivre des priorités israéliennes, priorités qui d'ailleurs sont aujourd'hui discutées même en Israël. Et ça, c'est toujours très révélateur. Quand même vos alliés commencent à douter de la manière dont vous conduisez une guerre, c'est que quelque chose ne fonctionne pas.
Alors, les États-Unis ont revendiqué avoir déployé des moyens militaires absolument gigantesques.
Absolument. Alors Trump a demandé un budget qui n'a pas été accordé pour l'instant, mais qui était le plus gros budget depuis la Seconde Guerre mondiale militaire. Et oui, sur le papier, c'est impressionnant. Deux groupes aéronavals, une pression maximale, une capacité de projection considérable. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus fragile. Un porte-avions déjà hors service, un autre qui a saturé ses capacités de frappe après plusieurs semaines d'opérations intensives. Au-delà même de ces éléments, ce qui frappe justement, c'est le décalage. On frappe, mais on ne gagne pas. Et ça, historiquement, c'est toujours le signe d'une guerre mal pensée. On est dans une logique d'usure, pas dans une logique de victoire. Et quand une puissance comme les États-Unis entre dans une guerre d'usure au Moyen-Orient, on sait comment ça se termine toujours.
Et effectivement, on a l'impression que Trump est tombé dans les péchés de ses prédécesseurs. Vous êtes assez critique envers le président américain, pourquoi ?
Alors parce que dans cette séquence, Donald Trump apparaît, il faut le dire, absolument ridicule. Ridicule dans ses tweets, ridicule dans ses menaces, ridicule dans ses revirements. Le jour de Pâques, il publie un message mêlant insultes, pression militaire et ce « praise to be to Allah ». Je mettrai un euro dans le cochon.
Mais non, vous citez le président
voilà,
Trump.
Je cite le président Trump. Toutes nos prières soient tournées vers Allah en citant le dieu des musulmans, hein, très précisément, ce qui est totalement incohérent. Et puis surtout, il y a ce tweet hallucinant d'avant-hier où il évoque la possibilité d'anéantir 4000 ans de civilisation. 4000 ans, c'est la Perse, c'est une histoire millénaire, c'est une civilisation entière, et en une phrase, tout cela devient une cible et devient presque crédible, en fait, même si on ne croit plus vraiment Donald Trump. Et ça, c'est très grave, parce que ça montre qu'on ne parle plus d'objectifs militaires, mais d'une forme de surenchère totalement déconnectée, presque émotionnelle, et d'une guerre conduite à l'émotion, c'est forcément une guerre qui dérape.
Alors, face à ça, l'Iran, évidemment, réagit totalement différemment.
Alors, l'Iran parle peu. Alors, on a vu ses ambassades, en effet, hein, qui faisaient beaucoup de tweets pour se moquer de Donald Trump, ce qui dit beaucoup de la conduite des opérations, mais l'Iran n'a rien cédé. Les Mollahs n'ont transigé sur rien, ni sur leur position, ni sur leur capacité, ni sur leurs alliances. Et aujourd'hui, on a une situation assez incroyable. Après des semaines de menaces, Washington explique que les positions iraniennes sont une bonne base de discussion. Donc ce qui était inacceptable devient acceptable, c'est une inversion totale du rapport de force. Et soyons clairs, l'Iran sort gagnant de cette séquence. Il a tenu, il a résisté, il négocie désormais en position de force. La seule limite aujourd'hui, c'est la question de ses alliés régionaux et notamment le Hezbollah et la question du Liban.
Alors, cette question du Liban, on va y revenir. Il y a aussi des tensions quand même intérieures à l'intérieur des États-Unis, notamment les catholiques par rapport à la sphère protestante.
Oui, alors c'est un point très important parce qu'il dit quelque chose de plus profond dans la manière dont est menée cette guerre. Ces derniers jours, on a assisté à une véritable brouille entre l'administration Trump et une partie du monde catholique américain. Le renvoi de l'aumônier des armées, le refus d'organiser une messe de Pâques au Pentagone et même la convocation du nonce apostolique à Washington. Ce sont des signaux très forts. Pris séparément, on pourrait minimiser, mais ensemble, il dessine une rupture entre le pouvoir politique et une tradition religieuse pourtant profondément enracinée dans l'armée américaine et même dans le monde américain en règle générale. Et c'est pas anodin, parce que cette guerre intervient justement au moment où Trump multiplie les références religieuses dans ses discours, mais de manière totalement désordonnée, presque instrumentalisée. On passe d'un « praise be to Allah » dans un tweet à une tension ouverte avec le monde catholique. C'est incohérent et ça contribue à décrédibiliser davantage sa parole et à donner le pouvoir à une frange de la droite protestante américaine qui est, pour ma part en tout cas, je pense, très dangereuse pour le monde conservateur de droite occidentale.
Et pendant ce temps-là, le Liban replonge dans la guerre.
Oui, alors ça c'est sans doute le point le plus grave pour moi aujourd'hui. J'ai toujours été opposé à ce que le Liban soit entré dans des conflits pour des intérêts étrangers. Mais là, on est passé à autre chose. Depuis hier, les frappes israéliennes ont atteint un niveau de violence inédit, plus massive, plus profonde, plus destructrice. On ne parle plus de riposte, on parle d'une offensive d'ampleur, structurée, et qui va s'inscrire dans la durée.
Alors, est-ce que vous craignez une escalade durable ?
Alors oui, clairement, le fleuve Litani redevient une ligne stratégique. Hein, donc ce fleuve Litani que déjà les créateurs d'Israël prônaient comme une limite potentielle nord à l'État d'Israël. Et là, ça devient une limite crédible. On parle potentiellement d'une progression militaire, d'un contrôle de territoire, voire d'une invasion durable. Et il faut le dire, rien ne peut justifier une telle dévastation du Liban, un ami historique de notre pays et de notre peuple. Refuser les actions du Hezbollah ne veut pas dire accepter la destruction d'un pays et le déplacement massif de sa population. On parle encore une fois de près d'un quart de la population libanaise. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se profile.
Alors, est-ce que la trêve est déjà morte ?
Ah, dans les faits, oui. Elle a été portée uniquement par les États-Unis. Elle n'est ni respectée ni réellement suivie. La preuve, la fin de la guerre au Liban, qui était un des éléments demandés par l'Iran et qui pouvait être un élément de sortie de crise, a été refusée par Israël. Les combats ont redoublé de violence depuis hier et jamais autant de victimes civiles n'ont été touchées en quelques heures depuis le début du conflit. Ce qui montre bien que cette trêve n'était pas du tout partagée et globalement quelque chose de partagé uniquement par Donald Trump et certains de ses proches alliés.
Bah, Donald Trump, les Irans, les Iraniens, le Pakistan, en fait tout le monde sauf Israël, pour le dire autrement.
Voilà, absolument.
Et en un mot, que retenir de cette guerre ?
Elle révèle une chose très simple. On peut perdre une guerre sans la perdre militairement. Les États-Unis cherchent une sortie, l'Iran impose ses conditions et le Liban, lui, paie le prix sans que personne ne s'en émeuve. Tout ça du fait de la folie de deux hommes à Jérusalem et à Washington, s'isolant un peu plus chaque jour de leurs états-majors, de la communauté internationale et même de leur propre population. Alors on a Georges Clemenceau qui disait « La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires ». Il était visiblement loin d'imaginer l'incapacité de Donald Trump et de la sphère politique à gérer une véritable guerre.
Merci beaucoup François-Xavier. Et ben, j'appelle et bientôt la revue de presse de Gilles Brochard.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour cher Richard, bonjour cher Arnaud, chers auditeurs. La question que tout le monde se pose aujourd'hui à Paris comme en province, est-ce que le prix de la pompe va baisser dans les prochains jours. Alors, comme l'écrit Le Parisien, ce mercredi midi, le baril de Brent s'affichait à 94 $ contre 110 la veille au soir. C'est surtout le produit fini à Rotterdam qu'il faut regarder, notamment car nous sommes très dépendants du diesel importé, souligne François Pousse, président national de la branche des distributeurs de carburant du syndicat professionnel Mobilians. Et de ce côté-là, les voyants sont au vert, avec une chute de 25% environ depuis la veille. Les prix du carburant pourraient baisser de 5 à 10 centimes le litre très rapidement, confirme-t-on ici ou là. Quand les prix mondiaux baissent, les prix à la pompe doivent baisser aussi vite qu'ils sont montés. Le gouvernement y veillera, a rapidement réagi Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a indiqué que les ministres concernés et les services de l'État réuniront à cet effet toute la filière des raffineurs aux distributeurs à Bercy, sans préciser la date, et qu'un plan de contrôle sera déclenché. Autant le gouvernement peut comprendre qu'il y ait 3 ou 4 jours de délai entre le début de ce cessez-le-feu et la répercussion à la pompe, autant il est évident que les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine, a ajouté le Premier ministre, répondant aux questions des sénateurs dans l'après-midi. Il a aussi mentionné la poursuite des aides ciblées. Quand les cours du pétrole diminuent, précise Le Figaro, plus personne ne court à la pompe. Pire, ceux qui le peuvent reportent leur achat en attendant que les prix baissent. Conséquence, au lieu de remplir leurs réserves 2, parfois 3 fois par jour lors des grands rushs, les distributeurs ne les remplissent plus que tous les 2 ou 3 jours. Il faut donc 6 fois plus de temps pour que leur propre coût d'approvisionnement diminue et que les prix à la pompe suivent. Et qu'en est-il du côté des prix du gaz? Eh bien, le prix repère du gaz passera en moyenne de 139,12 € du mégawattheure à 160,54 €. Néanmoins, ajoute Le Figaro, le décalage entre les cours du gaz et les tarifs facturés aux particuliers n'a rien d'étonnant. La Commission de régulation de l'énergie prend en compte l'évolution des marchés sur 3 mois pour calculer le prix repère. Il faudra donc attendre un recul des marchés sensibles et durables pour observer une diminution des factures. Enfin, il ne concerne pas les 27% d'abonnés au gaz disposant d'un contrat à prix fixe sur 1 an. Dans Valeurs Actuelles, j'ai lu un article étonnant signé Meriadec Raffray sur ce qu'il appelle le ZEC de Pékin. Héros des résistants de Hong Kong, Jimmy Lai, 78 ans, vient d'être condamné à finir ses jours dans une prison de Lille. Pékin n'a eu de cesse de le réduire au silence. Son tort, être milliardaire, patron de presse et catholique. En effet, le 9 février, le verdict est tombé. Le tribunal de Hong Kong a rendu sa sentence définitive à l'encontre du citoyen britannique natif de Canton, 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, publication sédition et collusion avec l'étranger. À 78 ans, affaibli par 5 années d'incarcération après ses 4 condamnations précédentes, s'était signé son arrêt de mort, réagissait sa fille Claire au sortir de l'audience. Et comme l'explique le journaliste, tout a été fait pour réduire au silence ce patron de presse catholique en dépit de l'intervention de Donald Trump auprès de son homologue Xi Jinping lors de leur entrevue en Corée du Sud en octobre dernier. Plutôt que de l'abattre, la prison a renforcé sa foi, témoigne Sébastien, son fils. Né en 47 dans une ville, dans une famille ayant fait fortune dans les transports maritimes, le jeune Jimmy est privé 2 ans plus tard de son père qui a dû fuir le goulag maoïste, tandis que sa mère doit payer son écho dans un camp de travail. Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans qu'il rejoint Hong Kong en descendant le fleuve, caché au fond d'une jonque. Un vieux contremaître le prend sous son aile et lui apprend l'anglais. Et contremaître à son tour, il investit ses primes en bourse, lève des fonds pour racheter une usine en faillite. Et à 30 ans, il devient le plus gros fabricant de pullover pour les marques américaines. À l'orée de la décennie 90, c'est la marque la plus populaire d'Asie. Puis Hong Kong redevient chinois et Lai lance son journal Apple Daily pour défendre ses convictions. Son lectorat devient vite important et pèse 8% des 7 millions d'habitants. une force de frappe considérable que son propriétaire met au service de la révolution des parapluies qui éclate à l'été 2014 contre un projet de réforme qui vise à amoindrir le suffrage universel dans le processus de désignation du chef de l'exécutif. Un photographe l'a immortalisé à côté d'un manifestant, il est alors arrêté, puis relâché, et sa popularité monte en flèche. Bref, toujours est-il qu'il est arrêté à nouveau en 2020, et son journal publiera son dernier numéro le 24 juin 2021, se vendant à 1 million d'exemplaires. À Rome, le pape Léon a reçu son épouse en audience avant le verdict final, et la France demeure, elle, silencieuse, alors qu'avant son incarcération, il consacrait ses loisirs à écrire des livres vantant notre patrimoine gastronomique aux Asiatiques, ce qui lui valut d'être citoyen d'honneur de la ville de Lyon et récipiendaire de l'ordre du mérite agricole. Voilà, à lire ce formidable article de Mériadec Raffray dans Valeurs actuelles. Et puis, on lira la lettre ouverte, bouleversante, au pape de Kamel Daoud dans Le Point qui paraît aujourd'hui. N'allez pas bénir cette terre belle, mais prisonnière, invective l'écrivain, alors que le pape Léon s'apprête à voyager en Algérie. Il lui adresse une lettre dans laquelle il écrit qu'en apprenant sa prochaine visite en Algérie, je cite, « Je fus attristé, moi, l'écrivain exilé de force en France, comme l'ont été des milliers d'autres Algériens qui, contraints, désespérés ou épuisés, ont aujourd'hui quitté l'Algérie. » Il note plus loin, « Recevoir votre sainteté obligerait l'Algérie à renouer avec son passé si riche. Son passé a été confisqué par les libérateurs, autoproclamés du pays, ses vétérans de guerre, ses seigneurs, au nom d'une décolonisation sans cesse reconduite à la place des vies à vivre, et ces islamistes qui nous imposent leur fanatisme. Nous avons souffert du radicalisme, de l'islamisme, qui n'est pas une religion, mais une meurtrissure et une maladie de l'âme. » Et dans sa mise en garde, Kamel Daoud écrit « Vous avez choisi d'y aller, vous êtes libre de le faire, mais à chaque pas que vous ferez en Algérie, votre sainteté, écoutez ceux qui ne peuvent plus parler, et pas seulement ceux qui vous parlent, et je vous demande par cette lettre de ne pas laisser étouffer leur voix derrière les cérémonies et les images. » Voilà, c'est à lire dans Le Point. Et je vous souhaite une bonne journée.
Zone libre.
Eh bien, merci beaucoup Gilles de nous avoir accompagnés. Et maintenant, un petit peu de zone libre avec Maëlys Clauzel.
Oui, effectivement Richard, je vais vous parler, chers auditeurs, de cette affaire. Hein, vous savez, cette Ukrainienne qui s'appelle Irina, qui a été tuée il y a quelques mois aux États-Unis dans un bus. Eh bien, figurez-vous qu'encore une fois, notre sacro-sainte justice a parlé, enfin la justice américaine cette fois-ci, mais elle est quand même assez semblable à celle de la France, eh bien, le meurtrier est jugé inapte à être jugé après un test psychologique réalisé en décembre. Eh bien, il a été jugé, donc voilà, il a été qualifié d'inapte pour jugement. Donc, en gros, il ne répondra pas de ses actes, de son meurtre. Voilà, la justice explique que, c'est un déséquilibre mental, comme si ce n'était pas le propre d'un criminel, en fait. C'est toujours assez, assez aberrant, d'autant plus que le maire de New York avait fait effacer la fresque en l'honneur de la victime il y a quelques semaines, je crois, ou quelques jours. Voilà, donc au final, là, on est au point culminant du scandale de cette affaire, de cette justice qui est tout à fait complice.
Eh bien, merci. Et une bonne nouvelle, peut-être, pour changer ?
Oui, une bonne nouvelle. Alors, ça va peut-être vous faire sourire, chers auditeurs, mais en Lituanie, le gouvernement envisage de réhabiliter les boîtes de nuit pour relancer le taux de natalité. Voilà. Donc, est-ce que ça sera suivi des faits ? On n'en sait pas trop, parce que, bon, c'est rare quand les histoires en boîte de nuit finissent sur des relations durables, si je puis dire, ou en tout cas des vraies naissances. Donc, bon, on verra.
On verra. Et je rappelle qu'à la fin du colloque de l'Iliade, il y a un grand bal populaire. Donc, sait-on jamais. Voilà. Peut-être que l'Iliade aussi participe à ce réarmement démographique demandé par Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Maëlys Clauzel. Zone libre. Et il est 9h41, donc il est temps, justement, de prendre congé de nos auditeurs sur YouTube et sur X, mais on prend congé en vous demandant un dernier petit geste. Je le répète depuis quelques jours, voilà, vous êtes 1,5 million à nous écouter chaque semaine sur tout un tas de canaux différents. Vous êtes quelques milliers à nous donner, ben n'hésitez pas, faites partie de ceux qui soutiennent Radio Courtoisie et qui permettent justement à tout le monde de nous entendre.
Et pour nous faire un don en ligne, eh bien, il suffit de vous rendre à cette adresse soutenir.rc.fr et donc nous faire un don en ligne et d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris.
Et nous réécoutons tout de suite le dialogue entre Michel Hamas et Thierry Mariani sur l'aide sociale à l'enfance et la manière dont l'État a fait faillite là-dessus comme ailleurs.
Ligne droite. Debout les Français.
Thierry Mariani, nous sommes avec Michel Hamas, l'avocat qui lance l'alerte depuis maintenant presque un an sur ces réseaux de prostitution de mineurs qui se nourrissent littéralement de l'aide sociale à l'enfance et par ailleurs donc de tous ces problèmes de violence qu'on peut retrouver au sein de ces structures. Et il pointe du doigt la responsabilité notamment des départements. Vous avez été conseiller général, donc l'ancêtre des conseillers départementaux dans le Vaucluse. Vous avez vu la façon dont ça peut fonctionner de l'intérieur et donc cette lenteur administrative à laquelle on peut assister, notamment sur ce genre de sujet grave. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Est-ce que, voilà, comme Michel Hamas le suggère, ce ne serait pas un sujet qu'il faut, que l'État doit reprendre en main et arrêter de déléguer?
Écoutez, j'ai malheureusement pas entendu votre discussion avec Michel Hamas. Je le prie de m'en excuser puisque je n'étais pas dans le studio. En tant qu'ancien conseiller général du Vaucluse, à l'époque, j'ai pas souvenir d'affaires honnêtement comme celle-ci. Je dis pas que ça n'existait pas.
C'est vrai qu'on n'en parlait pas.
Ouais. Deuxièmement, ce que j'ai pu constater par contre sur toute une série d'alertes sociales, puisque le social est désormais l'une des compétences principales des départements, c'est que les départements sont surchargés, sont complètement débordés, et que malheureusement, je pense qu'effectivement, même s'il y a des alertes, ce n'est pas forcément leur priorité en ce moment. Voilà, après, je suis arrivé, Monsieur Hamas, à la fin de votre intervention. J'ai noté que quand la police était enfin arrivée, ou plutôt quand les journalistes se sont manifestés, la police avait enfin décidé de s'occuper de ce problème. C'est évident que la prostitution enfantine devient de plus en plus importante et c'est évident que l'État a un rôle primordial à jouer pour la combattre.
Puisque Michel Hamas, quand vous nous parliez de ces journalistes qui ont commencé aussi à s'intéresser sur ce sujet, notamment en faisant des caméras cachées, on se rend compte que finalement l'État avait quand même déjà un moyen d'action via la police, et en réalité c'est quelque chose qui là encore était assez délaissé, avec des foyers qui donnent l'alerte, qui disent voilà, on sait que tel enfant a fugué, effectivement se retrouve dans telle location de Airbnb ou autre pour se prostituer et qui est la victime de ces réseaux. Et la police explique souvent qu'en fait, ils ne peuvent rien faire ou bien qu'ils essaieront d'intervenir et ça n'aboutit à rien. Là, l'État aurait pu expliquer voilà, à ses commissaires, ben maintenant, c'est l'une de vos priorités, agir lorsqu'un foyer vous appelle et qu'on sait qu'un enfant se prostitue dans tel appartement.
C'est pas exactement ça. Il y a une chaîne de responsabilité. Et après, il y a un fait social qui est la pédophilie. Chaîne de responsabilité. Les départements, les structures ne signalent pas quand il y a la fugue. Quand ils estiment qu'il est en fugue, on le sait plusieurs semaines après. C'est-à-dire, face à l'enfant qui n'est pas là, la réaction d'appeler le magistrat, ce n'est pas immédiat. Je vous donne une image qui est simple. Votre enfant est scolarisé dans un internat où il vient en week-end chez moi. Si ce soir, il n'est pas là demain matin, vous le saurez dans la minute. Il est là, le problème. C'est d'abord des négligences gigantesques. Voilà, il faut dire les mots. Négligence gigantesque. Ce n'est pas un problème de budget. C'est un problème de défaut d'engagement. Deuxièmement, il y a le problème de la pédophilie. Et alors, maintenant, nous, on l'affirme et on ne met plus de gants à personne. En France, on est friendly de la pédophilie. Ce n'est pas un truc qui nous emballe, dans lequel on lutte vraiment. Pourquoi ? Nous, on l'affirme. Pourquoi ? Parce que personne ne saurait ignorer que 20 000 enfants se prostituent désormais à partir des foyers de l'enfance. Personne ne saurait ignorer. 20 000 enfants, c'est donc 400 000, 500 000 consommateurs. Parce que là, on part de l'enfant. On part du steak haché. Mais maintenant, il faut voir le ventre. Personne ne s'occupe du ventre. Et alors, il n'y a pas de politique globale en France de lutte contre les réseaux de pédophilie. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les ministres. Maintenant, on travaille avec 4 ministères en même temps coordonnés. Justice, intérieur, femmes, santé. Et eux sont comme nous, ils sont désarmés. On attaque un peu à droite, on essaie de colmater à gauche, on bricole. Il faut lutter contre la pédophilie. D'abord, il faut fermer les sites dont on a demandé la fermeture, et ce n'est pas le cas, c'est inacceptable, en fait. Ces tergiversations, tout ça, c'est bien. Quelques semaines, mais pas 8 mois.
Là, ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas, Michel Hamas, puisque vous avez tiré la sonnette d'alarme, et vous les avez même vus en rendez-vous privé pour les avertir.
Encore une fois, je ne les ai pas vus seuls. Ouais. On a été reçus à l'Assemblée nationale par des centaines de députés, et quand on monte, on vient à plusieurs avocats, on vient avec des magistrats. Je ne suis pas l'excité qui vient dans un truc. On travaille avec les magistrats, moi je ne suis que la voix, puisque les médias m'ont vu en premier, donc on m'a mis devant. Mais on porte le combat des autres. Donc, un, fermez ce site. Et deux, parlons de la pédophilie. Et là, je vais vous révéler, je vous parle juste d'une procédure qui est symptomatique de tout. On a une petite fille qui habite Montpellier qui est placée. Elle est enlevée par des réseaux de pédophilie. On va la roder. Ils vont la roder à Auxerre, où ils la prostituent. Donc, enlèvement, séquestration, viol et réseau de pédophilie. Là, la mère, pendant des semaines, va à la police, ma fille est là, puisqu'on les joue, c'est sur Snapchat qu'on les localise, hein. Donc on met près, on sait où est l'enfant. Pendant des semaines, on va voir le commissariat en disant, allez chercher mon enfant. On finit, alors elle a enregistré la conversation, le policier dit, arrêtez de nous emmerder, allez chercher votre enfant. Donc, elle va récupérer l'enfant, elle va sur place, elle appelle la police qui vient. On arrête le MAC, le procès net, et 4 personnes en train de consommer cet enfant. Ah, écoutez-moi, parce que c'est surréaliste. Tout le monde est entendu, tout le monde est libéré. Attendez la phrase, parce que c'est quand même pas neutre. Tout le monde est libéré. La maman reprend l'enfant, la ramène à Montpellier, on la remet dans le foyer de placement. Le même proxénète vient récupérer cet enfant, là l'amène à Versailles. Ou à Versailles, elle va être livrée à la pédophilie à nouveau et séquestrée. Enlèvement, séquestration, viol, prostitution. Là, à Versailles, pareil, on va voir la police tous les jours et on a les mêmes entretiens avec les policiers. « Allez chercher votre enfant, arrêtez. » C'est là que le journaliste de France Inter, courageux Antoine Gignoux, se met en bas de l'immeuble en disant « Voilà, c'est moi le journaliste, venez. » Là, les policiers arrivent, arrêtent, proxénète, consommateur. Et là, pas le même régime. Garde à vue, juge d'instruction, prison pour tout le monde, ouverture d'une information pour enlèvement, séquestration, viol, proxénétisme. C'est-à-dire que 2 endroits différents pour les mêmes faits, les mêmes acteurs, à 1 mois de différence. À Auxerre, ils vont considérer que c'est le proxénète est poursuivi pour proxénétisme, c'est-à-dire assistance à la prostitution, comme si c'était une adulte. Et à Versailles, on la considère comme un enfant, il y a une instruction. Alors que ma cliente, elle a 13 ans. À quel moment le parquet de Versailles peut estimer que contribuer à la prostitution d'un enfant de 13 ans, c'est juste de la prostitution ? À quel moment ? Moi, j'entends, on a un combat médiatique, nous affrontons dans les médias à l'heure actuelle. Mais on va s'affronter surtout au tribunal. À quel moment ? Qu'est-ce qui se passe ? On est passé, et alors, quand ça dysfonctionne, ça dysfonctionne. Nous avons été prévenus mercredi pour l'audience à Auxerre le mardi. La mère habite Montpellier, j'habite Marseille. Après, c'est la justice, et c'est vrai que la justice est faite au mieux. Donc moi, je crache jamais sur les magistrats, parce qu'ils ont... les magistrats en France ont un problème essentiel. Tiens, je fais une digression, mais dont il faut parler. En 1804, quand Napoléon crée le code civil et met en toutes les bases de notre justice. Il y a 6483 juges. Nous sommes en 2025. Nous sommes 40 millions de plus. Il n'y a que 7200 juges. C'est-à-dire qu'entre 1804 et aujourd'hui, il y a juste 900 juges de plus. Pour 40 millions de Français de plus. Alors, le problème, il est tout simple. On n'a pas de magistrats. Et certains ont une approximation, une analyse approximative des situations. Et par rapport à la pédophilie, je le dis de manière détendue, hein, il n'y a pas un projet de lutte. contre les réseaux. Là, si par exemple on scanne ce site dont je parle tous les jours, si on rentre dedans, j'imagine qu'il y a des gens qui sont compétents pour aller voir quelles sont les adresses IP des gens qui le consultent. Les pédophiles, ils sont tous là. Il suffit d'arrêter, quand on dit l'enfant est là puisqu'il est sur Snapchat, il suffit d'arrêter tout le monde. Et surtout, comment ils s'en sortent ? Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est important. Tous ceux qui ont consommé les enfants ne sont pas condamnés, en fait. Ils n'ont qu'à dire, je n'avais pas connaissance du fait que c'était un enfant.
Là, le policier arrête de travailler au lieu de saisir sa téléphonie.
Qui aurait un sens. Ça aurait un sens de saisir la téléphonie de celui qui a un rapport sexuel avec un enfant de 13 ans, tarifé ou pas. Ils ne saisissent pas sa téléphonie. Donc, toutes les photos, toutes les conversations, on ne les a pas. Donc, les gens, là, par exemple, je donne un exemple qui est à Albi en septembre. À Albi, ils arrêtent un proxénète avec une gamine de 13 ans. Il y a 19 personnes qui sont arrêtées pour l'avoir consommé. 19 dans le corps d'un enfant de 13 ans. 19. Ils sont tous passés en CRPC, c'est les audiences de plaider coupable pour les pauvres, parce que quand vous brûlez un feu rouge. Donc, ils sont passés là. Donc, il n'y a pas de peine de prison, CRPC. Et ils ont tous pris 500 euros d'amende. Et certains avocats avaient raison. Un avocat sait faire ce métier. Hein. Ils disaient, ah, mais ils ne gagnent pas assez d'argent, mais t'es moins. Monsieur s'est accouplé avec un enfant de 13 ans, moyennant rémunération. Albi, qui a donné tant de leçons à la France il y a quelques semaines avec le procès de ce monsieur Jubilard. Bon, pour donner des leçons... Oui. C'est bien, mais si on applique la loi, c'est mieux quand même, en vrai, dans la réalité de la vraie vie. Mm. Parce que,
c'est quelques minutes ce matin.
Et ça va être quelques minutes après, pour nous, un journal, un truc. Mais nous, ils s'asseyent devant nous, ces gens. Et quand on a... Mettez-vous juste une seconde à la place des parents. On leur prend l'enfant parce qu'ils se disputent, par exemple, ou parce que l'enfant est autiste, ou parce qu'elles ont été rouées de coups par un mari qui les malmenait. L'enfant est placé, et un jour, elles sont obligées de s'asseoir en face de moi, et je leur dis, ben voilà, votre fille est dans un réseau de pédophilie, elle est accro à la cocaïne, et on ne sait pas où elle est.
Mm. C'est-à-dire, c'est ça qu'on doit faire. Et plus...
Un truc incroyable, les MST, à 12 ans, à 13 ans, à 11 ans, est-ce que nous qui sommes ce pays merveilleux qu'est la France, on peut continuer à accepter que nos enfants à 11 ans chopent une MST dans un des foyers que nous avons à Villeurbanne, où on défend une petite, l'une des autres petites, est séropositive? Est-ce que, si ça ne nous préoccupe pas, faisons autre chose, on dit allez, on s'en tamponne et open bar les enfants, comme ça on libère ceux qui ont détention. Mais on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et nous, c'est ce que nous disons, on le dit, on ne sait plus comment mettre les formes, on a essayé le lyrisme, on a essayé les bouquins, on a écrit des bouquins, on est allé partout.
Et depuis juin, il ne se passe rien.
Et la réaction des parquets, elle est d'engager ma responsabilité à moi parce que je lance l'alerte. En disant, mais celui-là, comment c'est possible qu'il passe par les médias pour assurer sa défense? Moi, en vrai, à un moment, quand nous, on n'a plus d'armes, parce que juridiquement, dans la mesure où dans cette matière, on revient au dossier, c'est le juge pour enfants dans lequel les parents n'ont aucun droit. Le juge pour enfants, les parents ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Dans la mesure où je peux pas faire un référé, je peux pas faire un référé premier président, je peux pas saisir la cour d'appel, je peux pas saisir le parquet, je peux rien faire. Je suis juge pour enfants, si je lui écris, il est pas obligé de me répondre. Si on continue dans une matière où on n'a pas l'égalité d'armes, lorsque nous sommes arrivés, moi je suis un vieil avocat, j'ai 61 ans, ça fait 32 ans que je suis avocat. Quand on est arrivé en garde à vue, on n'allait pas les clients. Et quand on venait, ils étaient gonflés de coups, ils avaient pris des coups d'annuaire, et il y en avait qui avaient des plaies. Bon, du moment qu'on a donné les mêmes armes à tout le monde, le match était égal, des erreurs judiciaires, il n'y en a pas beaucoup en vrai. Hein.
Merci beaucoup encore une fois pour votre travail dont l'importance est plus que évidente, Michel Hamas. Et donc je vous dis à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Chers auditeurs, il est temps de nous quitter et évidemment, je vais vous demander une dernière fois de bien vouloir nous soutenir.
Et pour nous soutenir financièrement, deux solutions s'offrent à vous. Tout d'abord, nous faire des dons en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr ou bien encore d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci beaucoup Arnaud, et avec tout cet argent que vous allez nous envoyer, nous allons continuer à faire de très bonnes émissions. Et par exemple aujourd'hui,
aujourd'hui tout à l'heure à midi par exemple, le libre journal d'Aude de Kéros en direct, le temps long des civilisations entre trésor et tragédie. À 17h, Sursum Corda de l'abbé Mathieu Raffray, consacré à Pâques aujourd'hui. À 17h30, Restons Courtois, dirigé en direct par Marc Hainaut ce soir. Une émission à suivre sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. Et puis à 19h30, toujours en direct, le libre journal des traditions, dirigé par Alain Laurence. Il y sera question notamment de Jean de Vigry, un historien face à l'Église. Et puis à 21h30, toujours en direct, le libre journal de la souveraineté, dirigé par Michel Leblay, le coût de l'immigration, une étude d'André Posclos.
Eh bien, puisqu'on parle d'immigration, justement, on parlera demain avec la députée Anne Sicard de sa proposition de loi pour limiter le voile islamique à l'intérieur des conseils municipaux. Merci beaucoup Arnaud.
À demain.